Vous écoutez
RMC. RMC After Live, intégrale Coupe du Monde.
Nicolas Jamain.
Il est 4h du matin en France, il est 22h ici à New York avec Kevin Diaz, avec Walid Acharchour. Vous nous écoutez sur RMC, vous nous regardez sur Afterfoot TV également, sur la chaîne YouTube de l'After.
Alors, messieurs,
merci d'être avec nous. Qu'est-ce qu'il y a, Kev?
J'ai un auditeur fidèle de l'After qui m'envoie un message.
Oui.
Un certain S. Diaz qui me dit que on n'y connaît pas grand-chose parce qu'en fait, le maillot du Japon, il y a donc 11 bandes qui sont censées représenter les 11 joueurs du Japon. Et la bande du milieu, qui est une bande rouge, c'est pour le rond sur le drapeau du Japon. Voilà.
La couleur du drapeau du Japon.
Et pourquoi les 11 joueurs?
Je sais pas, mais en tout cas ils ont
le 11, voilà, le 11 japonais, voilà.
Le 11 japonais, c'est pas, je comprends pas, pourquoi la couleur, les couleurs.
Le football se joue à 11 et voilà.
Oui, d'accord, mais moi je parlais de la couleur, la typo du coloris.
Le blanc?
Non.
Non. Le choix, le 11 couleurs,
le choix, le 11 couleurs différentes. Pourquoi les couleurs? Et pourquoi le noir?
Arc-en-ciel, quoi. Voilà.
C'est le truc un peu arc-en-ciel.
Ok.
On est tous différents, mais on est sur le même maillot, on est dans la même équipe.
Ce qui est magnifique, c'est le petit drapeau japonais derrière.
Ouais, non, mais c'est, ça, ils savent faire. Ça, ils savent faire, le petit drapeau japonais.
Mais j'ai déjà dit.
C'est pas un des plus beaux drapeaux, le drapeau japonais.
Très beau les maillots de Nike sur la Coupe du Monde, mais les maillots Adidas, c'est fort aussi. D'ailleurs, t'as compris, l'approche marketing, c'est, on fait pas des maillots de foot, on fait des t-shirts que tu mets dans la vie.
Ouais.
Ils sont hit.
Moi, j'adore.
De toute façon, profitons de ces deux monstres, Nike et Adidas.
Ouais.
C'est vrai.
Ah bon?
C'est très fort.
Moins Puma, toi? D'accord.
Non, Puma fait des bons trucs.
Mais c'est un très beau maillot, Puma, pour les équipes africaines.
Ouais, très beau maillot.
Mais la Côte d'Ivoire et Umbro, Sénégal.
Non, hein? Umbro, non.
Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je suis ouvert à tout, moi, il n'y a pas de souci.
Oui, bon. Il y a Jimmy qui est en tension ce soir, là. Il veut qu'on parle de l'Espagne tout de suite. Hein.
Ah ouais.
Et là, on n'est pas là pour déconner. On n'a pas droit à 30 secondes de digression.
Ah, attends,
c'est
interdit. Attends.
Je dis
à notre dernière.
Parce que notre dernière ici à New York City. On déconne, Jimmy, là.
On peut quand même. Ok, il a acheté un maillot, ok, bon bah allez, vas-y, bah on
Jimmy, va passer, tu peux venir à l'antenne pour t'expliquer.
Franchement, là on a le Jimmy de génération After. Vas-y, viens.
Il vient, il se contredit. Non, c'est bon, il est cohérent. Il vient pas.
Ouais,
non,
il vient pas.
Il a failli venir. Ouais,
il a dit c'est bon, il a acheté un maillot il y a deux jours, on va pas en faire 20 minutes.
C'est le Jimmy de génération After.
Ouais, exactement.
Ouais. Là, c'est
le Jimmy.
L'ancien, parce que maintenant il est monté.
C'est le Jimmy qui a fait 3 semaines ici à New York avec nous et qui n'en peut plus. Exactement, c'est ça.
Il est en craquant,
c'est bien resté, je pense.
Il est en tilt max.
Mais je pense qu'il serait bien resté. Lui, à New York.
Ah ouais.
Il se régale.
Ah, mais là, c'est celle de trop.
Même en famille et tout, je pense que ça devient New Yorkais en 2 semaines.
Oui, oui. Il se perd à New York.
Ah ouais, non,
mais c'est celle de trop.
Avec toute la famille, je le vois bien.
Par contre,
la piscine dans les immeubles là, à l'intérieur, quoi. En gros, dans ta copropriété. La piscine, le tennis.
Il a besoin de se barrer vraiment chez Eddie pour aller manger là. Ouais, parce que là, il en peut plus. Vraiment.
Alors, Jimmy est en train de quitter l'immeuble.
Ouais,
tu fais ça, c'est faute lourde.
Ouais.
C'est licenciement.
Ouais, mais là, il dit qu'il faut
pas. Ouais, mais du coup, il déménage à New York. Du coup, il déménage à New York avec toute la famille.
Le mec, il prend l'ordinateur et tout.
Il en peut plus.
À Times Square.
Il en peut plus.
À Times Square.
L'Espagne. L'Espagne s'est imposée 3-0, son meilleur match dans ce mondial. 3-0 avec des buts doublés d'Oyarzabal et Pedro Porro qui ont permis à l'Espagne de voir les huitièmes de finale. Oyarzabal, ça fait 4 buts, hein. Une passe décisive.
On n'a pas entendu la canette.
Tout va bien.
Super. On est à la maison.
C'est pareil. Mec, il se gratte l'oreille.
Il est à mon micro.
On vient d'entendre de la canette quand même.
Okay. Les gars, l'Espagne a sorti le gros match face à l'Autriche, valeureuse Autriche. Mais je regarde en fait parce qu'on a également l'Algérie avec un Zidane qui sera titulaire ce soir. Hein, je tiens à le dire. La compo dans quelques secondes on va la donner. L'Espagne, c'est
l'Espagne,
vous êtes convaincu l'Espagne. Excusez-moi les gars, vous êtes convaincu.
Espagne.
Est-ce qu'on a retrouvé la grande Espagne justement, Kevin? Je commence avec toi.
Bah écoute, moi en tout cas j'ai retrouvé une équipe d'Espagne très solide, très cohérente, avec beaucoup de maîtrise dans le jeu, avec aussi pas mal d'occasions créées. J'ai aussi retrouvé comme par hasard un bon Yamal, pas encore le grand Yamal, mais en tout cas qui retrouve ses jambes avec 2-3 crochets, ou 2 petits ponts qui font très très mal. Et un Oyarzabal qui est totalement mon football, encore une fois. Bah ouais, je suis désolé, c'est peut-être pas ceux pour qui on achète les billets en premier, Oyarzabal et compagnie, Luka Modric et consorts, mais en tout cas voilà, c'est la pure efficacité, c'est Alaba qui dit à la fin du match que c'est un cauchemar de jouer contre Oyarzabal parce que tu vois
la déclat, j'ai noté, Alaba dit nous n'avons pas perdu face à l'Espagne, nous avons perdu face à Oyarzabal, ce n'est pas le joueur le plus rapide sur le terrain, il n'est pas le plus fort physiquement, mais son intelligence footballistique physique est d'un autre niveau. Ses déplacements entre les lignes, son positionnement dans la surface, sa capacité à arriver au bon endroit au moment précis le rendent incroyablement difficile à défendre. Voilà.
Ouais, non, mais après, c'est pas le seul, parce que il y a aussi un très bon Cucurella sur le premier
but. Lui, il fait un mondial, lui.
Qui est très important, qui se projette. J'ai trouvé aussi un bon Rodri. Bah, c'est vrai que tu parlais de Koubarsi. Très fort. Donc, non, franchement, je trouve que l'Espagne a vraiment lancé sa Coupe du Monde.
Walid.
Non, mais l'Espagne a été un peu timide, mais sans véritablement avoir été en danger défensivement sur les trois premiers matchs. Mais je sentais que physiquement, cette équipe-là était encore en rodage. Et c'est vrai que là, ils ont totalement changé de braquet sur ce 16e de finale face à une équipe autrichienne qui est pas simple à bouger quand même, parce qu'il y a des joueurs avec beaucoup, beaucoup d'intensité. Et j'ai retrouvé, un très très bon collectif avec beaucoup plus de vie dans les relais. Je préfère Dani Olmo en 10 plutôt que Merino, parce que pour moi Merino est un faux numéro 9 aujourd'hui.
Olmo, c'est très important.
Voilà, et le Olmo, on parlait d'Oyarzabal qui avec l'Espagne est un joueur différent. Olmo est un joueur différent aussi avec l'Espagne. Moi, je suis désolé, mais à chaque fois qu'il touche le ballon entre les lignes, son toucher de balle dans la surface de réparation est effrayant pour les adversaires. On a vu un
Yamal en Croatie d'ailleurs.
Ouais, on a vu un Yamal en jambes, même si je trouve qu'il est pas encore, c'est pas le Yamal stratosphérique meilleur joueur du monde, mais il est dans les relais, il est dynamique. Pedri bien mieux, Rodri bien mieux aussi, parce que son match contre l'Uruguay avait été catastrophique.
Fait un très bon match,
ouais. Koubarsi fait peut-être avec Upamecano pour moi le meilleur défenseur depuis le début de la compétition. Cucurella qui fait ses deux passes décisives et qui est très pertinent dans sa qualité de centre. Donc ouais, petit à petit cette équipe d'Espagne est en train de monter en puissance et de toute façon, on savait aussi au début de la compétition que cette équipe-là, avec l'Argentine et avec l'équipe de France, faisait partie des vainqueurs potentiels. Et ils l'ont encore montré contre l'Autriche. À voir quand même, sur le côté de Baena, sur la rotation et notamment sur la densité des remplaçants avec Ferran Torres qui a encore beaucoup, beaucoup mangé, je trouve. Et que sur les transitions, il n'y a pas eu encore beaucoup, beaucoup de dangers avec l'Uruguay, le Cap-Vert, l'Arabie Saoudite ou même l'Autriche. Mais oui, l'Espagne, quand ils sont dans ce rouleau compresseur, c'est très 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 sérieux. Et c'est une équipe qui est la meilleure collectivement quand elle est à ce niveau-là. Et il y aura le premier test contre le Portugal, parce que moi je pense que c'est un match en huitième de finale, se taper le Portugal pour l'Espagne.
C'est un match différent.
C'est un match différent. Unique. C'est un match qui est pas simple. Mais oui, l'Espagne.
Jusque là, ils n'ont pas rencontré grand monde non plus.
Qui, le Portugal?
Non, l'Espagne.
Mais voilà. Donc, mais c'est pour ça que c'est un test. Ça va être un test intéressant. Et le Portugal n'a pas envie de rencontrer l'Espagne. Je pense que l'Espagne n'avait pas envie de rencontrer le Portugal aussi. L'Espagne. Au passage, Yamal qui a dit en interview que le défenseur qui l'a mis le plus en difficulté, c'est Nuno Mendes. Oui. Donc voilà, il va avoir des matchs dans le match très intéressants.
Ça, c'est en club, en l'occurrence.
Non, c'était en sélection avec Espagne-Portugal l'année dernière en finale de Ligue des Nations où il avait été monstrueux, Nuno Mendes.
Ok. Tu l'as dit tout à l'heure, zéro but encaissé pour l'instant l'Espagne. Ouais. Même s'il n'y a pas d'énorme adversité, c'est
mais
quand
très
même
solide, très
une régularité. C'est pour être le sujet, la défense espagnole qui pouvait flotter avec le duo Koubarsi-Laporte. Hein. Il a fait des choix forts. Luis de la Fuente, c'est extrêmement solide. C'est pas que les deux aussi. C'est, tu l'as dit, l'énorme travail de Rodri également.
Oui, Rodri, Pedri qui a été vraiment bien aussi aujourd'hui. Voilà, tout le monde a aussi son niveau de jeu. 16e de finale, élimination directe. 3-0, ça aurait pu faire beaucoup plus.
Ce que tu disais sur le poste de numéro 10, c'est vraiment très important.
Ouais, pour moi, ça change la face de l'équipe.
On en parlait avec Edgar Grollo lors du match précédent de l'Espagne. Mais quand Dani Olmo joue, c'est quand même très, très fort. Mmh. C'est bien meilleur qu'avec Merino.
Pour moi,
que j'adore Merino. Ouais,
oui, c'est un vrai bon joueur.
C'est
un vrai bon joueur d'équipe. Mais face au jeu, enfin dos au jeu, il n'arrive pas à se retourner comme Dani Olmo. Et on a eu deux versions de l'Espagne. Une avec Pedri au poste de numéro 10, et moi je le préfère beaucoup plus bas en 8 à côté de Rodri. Et une avec Merino en 10. Et celle avec Olmo, de toute façon on l'a vu même contre l'Uruguay quand il est rentré, c'était pas la même chose. Ouais. C'est pas la même limonade.
En fait, c'est le seul qui peut prendre le ballon et courir avec la balle.
Et puis il a des changements de rythme, il a des contrôles de balle.
Contre l'Uruguay, oui. Il tourne sur lui-même.
Et puis il avait fait danser
l'Uruguay.
C'est un joueur qui a des prises de balle autour de la surface qui est dévastateur. C'est dévastateur.
Des fois, il manque un peu. Des fois, tu te dis, oh, il manque de technique, tu vois. Alors que des fois, il fait des trucs dingues.
Ouais.
Et puis des fois, il peut aussi avoir le contrôle un peu long.
Moi, je trouve que les prises de balle sont.
Il
a peut-être les meilleures prises de balle au monde, moi.
Oui, non, mais je te parle.
Surtout dans l'intensité.
La deuxième, la troisième touche, des fois, elle est pas aussi soyeuse. C'est pas Modric, tu vois ce que je veux dire. Mais par contre, il est plus décisif.
Moi, c'est plus la troisième touche quand il va frapper,
ouais, voilà.
Où il a encore
battu. Il est décisif.
Voilà. Par rapport à ce qu'il génère sur sa première explosivité.
Voilà. Les expected,
il pourrait faire beaucoup mieux.
Les expected goals sont
après le bémol par rapport à 2024, ça va être Rodri. Est-ce que c'est le Rodri de l'Uruguay ou c'est le Rodri de l'Autriche?
Il y a personne à gauche aussi.
Et surtout c'est Baena à la place de Nico Williams. Ou si Yamal ne retrouve pas sa meilleure forme physique, moi je trouve que sur les côtés, face à une plus grosse adversité, ça va être intéressant de voir comment ils vont pouvoir compenser.
C'est quoi alors Nico Williams? Il était sur régime.
Il a eu une blessure.
Il a rechuté.
Il a eu une blessure. Il a eu une saison qui a été tronquée par les blessures.
Et puis là, il est encore.
Il n'avait pas une carrière non plus complètement dingue dans l'Euro.
Non, mais ça reste un très jeune joueur. Et puis surtout,
il a eu un très jeune joueur.
Oui, enfin, il avait moins de 23 ans quand il joue avec.
Mais là, maintenant, il a 25 ans.
Oui, bien sûr. Non, mais ce que je veux dire, c'est que quand il arrive avec l'Espagne, c'est son premier gros tournoi. Il était rentré en 2022 contre le Maroc où il avait fait des très bonnes choses. Et puis surtout, il y a eu son transfert raté au Barça. De toute façon, c'est bizarre. Mais quand tu loupes des trains comme ça et que tu fais des décisions très bizarres derrière, donc tu te mets une pression
avec
négative.
Le respect, mais c'est pour rester dans un club qui est un très beau club.
Oui, après ça, c'est un choix sentimental.
Un petit club. Et un club qui le paye extrêmement.
Ouais, très très bien. Et qui lui a offert 10 ans.
Voilà. Tout va bien pour Nico Williams.
Au passage. 10 ans de contrat.
Voilà pour l'Espagne. Raf Rangnick qui dit quasiment on a affronté une équipe qui ne faut qu'une erreur, qui sera championne du monde. Voilà.
Mais c'est tout à fait possible.
Ah non mais possible. Ah
bon, si les gens disent ça de la France, si les gens disent ça de l'Espagne.
Non mais l'Espagne.
Il y en a qui vont dire ça de l'Argentine.
L'Espagne s'est réveillée. Elle était
du Brésil.
Elle n'était pas endormie si tu veux, mais là. Si certains commençaient à douter, attention l'Espagne.
Ouais, moi j'avais pas la vision sur le match. Sur le match contre l'Uruguay, j'avais pas la vision.
Et là, on a revu la grande Espagne.
Face au Portugal, c'est
de l'Euro.
Face au Portugal, c'est 55-45.
Non.
Et c'est pas 70-30.
65-35.
Je dirais qu'Espagne.
65-35.
Ouais. Oui, je suis plus avec Wally.
Mais par contre, les 35% sont très sérieux.
Le Portugais peut aussi se faire balader, sur, tu vois.
Il a pris dans un jeu collectif espagnol s'ils sont dans un bon jour.
Oui, bien sûr, mais en tout cas,
moins probable quand même.
Les Portugais n'ont pas peur de l'Espagne.
Ils vont les respecter. Après, il y a le jeu, il y a la tactique, il y a ce qui est mis en place depuis des années aussi. Parfois, tu as raison dans ton travail.
Gros client pour l'Espagne, le Portugal. Mais si demain, tu m'expliques que dans deux semaines, Rodri la soulève, je ne suis pas. je tombe pas à la renverse quoi.
Mais même
il y a 10 jours quand j'avais pas mal de doutes sur certains joueurs physiques, tu sais qu'en fait il y a un cadre collectif dans cette équipe qui te rapproche de la victoire. Mais il y a d'autres footballs dans cette équipe dans cette Coupe du monde qui me parlent en me disant ils peuvent se faire surprendre sur un match les Espagnols.